about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Spectacle vivant.
Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Amine Almansari. Réalisation Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir, Lucille Como, Fabienne Pasco et Thomas Corlin. C'est une première pour Thomas. Bienvenue à lui. On va parler ensemble de Mon cœur de Pauline Bureau. C'est en tournée, mais aussi on l'expliquera à voir sur Culture Box. 20 000 lieues sous les mers, d'après Jules Verne, mise en scène Christian Eck et Valérie Le Sort. C'est une reprise à la Comédie Française dans la salle du Vieux Colombier. Et puis Campana par le cirque Trottola, en ce moment au 104 à Paris, mais aussi en tournée. Il y aura un coup de cœur, signé Fabienne Pasco, pour Stück Plastik de Marius von Mayenburg. C'est une mise en scène de Maya Sandoz à découvrir au Théâtre Studio d'Alfortville. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le spectacle When I Die de Tom Luz. C'est jeudi 6 décembre que ces places sont à gagner. C'est à 21h dans le cadre du festival Mesure pour Mesure au Nouveau Théâtre de Montreuil. Le mouvement des Gilets jaunes ayant des répercussions sur les salles de théâtre, on avait dû renoncer à parler du spectacle d'Agnès Hurstel à l'affiche du théâtre du Rond-Point, Marigny, quelques autres théâtres qui, samedi, évidemment, n'avaient pas vraiment ouvert leurs rideaux. On ouvre donc cette dispute avec Mon cœur, écrit et mis en scène par Pauline Bureau, un spectacle créé il y a bientôt 3 ans, nous n'avions pas eu l'occasion d'en parler dans la dispute, mais comme la tournée se poursuit, de Niort à Nice, de décembre à mai, en passant par Bordeaux, Amiens ou Paris, je donnerai toutes les dates à la fin de cette séquence, mais il se trouve aussi que le spectacle a donné naissance à un film pour France Télévisions, réalisé par Pauline Bureau, qu'on peut voir en ligne sur Culture Box. Le sujet, c'était aussi celui qu'avait traité Emmanuel Berco dans son film « La fille de Brest ». On en avait parlé dans la dispute de ce film, à savoir donc le scandale du Mediator dénoncé par la médecin pneumologue Irène Frachon. La pièce de Pauline Bureau revient sur ce scandale à travers un cas précis, celui de Claire Tabar, personnage inventé par l'auteur, mais qui contient en elle beaucoup des témoignages recueillis par Pauline Bureau.
Après le premier coup, je crois que ma tête va exploser. Et je sais pas si je suis capable de me relever. C'est une surprise. Je serre les dents, je me redresse. Après le deuxième coup, pareil. C'est après le 10e coup. Là, je comprends que j'abandonnerai jamais. Alors maintenant, je vais rester debout et je me battrai jusqu'au bout.
Je reprends mes notes. Vous avez pris 25 kilos pendant votre grossesse et vous n'avez rien perdu. Vous êtes au même poids qu'au 9e mois.
Je sais. Je comprends pas. De toute façon, la grossesse, j'ai rien compris.
C'est-à-dire ?
Je savais que j'allais grossir et puis qu'il faudrait perdre les kilos. Mais je savais pas que mon ancien corps, je le laissais sur la table d'accouchement.
Vous savez ce qu'on dit, 9 mois pour faire, 9 mois pour défaire. Il suffit de faire un tout petit peu attention. Je vous prescris du Mediator. Vous allez voir, ça marche très bien. Ça permet de ne pas stocker tout ce qui est sucre. Et en plus, c'est remboursé. La belle la vie. Ça va aller, Claire.
Merci, docteur.
Je n'ai pas une bonne nouvelle, Madame Tabar. Votre cœur est très abîmé. Vous avez 2 valves qui ne fonctionnent plus qu'à 25%. Le sang ne circule plus. C'est ce qui fait que vous êtes fatigué.
Et essoufflé.
Oui, tout à fait, ça vient de là aussi.
Je croyais que c'était la trentaine.
Non, c'est votre cœur. Il est beaucoup plus âgé que vous.
Conclusion, docteur Frachon, le nombre de cas s'élève à
11. Cela porte donc à 11 le nombre de malades au CHU de Brest atteints d'une valvulopathie après avoir pris du Mediator.
Voilà pour cet extrait, Lucille Como. Alors, je l'ai dit, c'est vrai qu'on est sur une sorte de double objet, puisque ce spectacle est en tournée, mais qu'on a pu le voir, enfin, nous, autour de cette table. Et toutes les personnes qui ont une connexion Internet peuvent voir gratuitement sur Culture Box. Alors, un drôle d'objet, Lucille.
Oui, c'est une forme étrange. Je ne crois pas, moi, avoir vu autre chose qui ressemble à ça. Donc, une pièce de théâtre et ce qu'on vient d'entendre, qui est entre la pièce filmée, parce qu'il y a à l'intérieur des morceaux de théâtre filmés bien, comme classiquement on peut filmer une pièce de théâtre, sur une scène, donc dans un théâtre. Et puis, des morceaux de téléfilm qui, pour le coup, ont trait en partie, parce que pas tout à fait, mais en tout cas un petit peu à l'esthétique du téléfilm. Bon, Pauline Bureau, c'est quelqu'un qui est très intéressé par les sujets de société. Elle avait fait une pièce il y a quelques années, notamment sur l'émancipation des femmes françaises dans les années 60, où elle montrait le parcours à travers deux générations, notamment de ce passage, de cette bascule, quand les femmes ont eu le droit d'ouvrir un compte bancaire à leur nom, et du coup à quel point ça a changé leur rapport notamment au travail. Donc là, il y a à nouveau quelque chose un peu de l'œuvre d'utilité publique, et du coup dans la forme aussi, je pense, de l'œuvre pédagogique. Et il me semble que la forme filmée, enfin la forme vidéo, tient beaucoup plus de ça que la pièce de théâtre. Moi, j'ai vu une captation de la pièce, donc je ne l'ai pas vue en salle. Mais en tout cas, elle a quelque chose de plus artistique, on va dire, que le film, qui lui est, à mon avis, un téléfilm à vocation pédagogique sur ce sujet du médiateur, que moi, je connaissais très peu. Donc, pour le coup, j'ai appris énormément de choses.
Vous n'avez pas fait l'émission sur la fille de Brest?
Non, pas du tout. J'ai pas vu le film.
Emmanuel Berco.
J'ai pas vu le film. Irène Frachon, vous voyez bien qui c'était, mais les implications sociales, et on va peut-être entrer dedans plus tard, mais notamment sur les femmes encore à nouveau, sur le type de personnes qui étaient touchées par cette affaire du médiateur, c'est quelque chose que j'avais pas du tout en tête. Et ce travail mi-vidéo, mi-scène, à mon avis, propose une vraie efficacité. En tout cas, si on examine dans un premier temps l'ambition pédagogique et sociale de l'objet, il est, à mon avis, extrêmement efficace, et aussi parce qu'il propose une forme chapitrée avec des dates, avec ce croisement entre le fil particulier donc de Claire Tabar, cette femme qu'on va suivre pendant une quinzaine d'années de sa première prise de médiateur jusqu'à la fin de son procès, et puis le parcours d'Irène Frachon et donc sa rencontre avec les institutions auxquelles elle va être confrontée les unes après les autres, ce qui est assez d'ailleurs bien mis en scène, je trouve. Voilà, il y a une vraie efficacité de ce point de vue-là.
Fabienne, parce que vous l'aviez vu en salle?
Non, moi je ne l'avais pas vu en salle, et j'ai découvert la captation et puis après le film qu'on peut voir sur Culture Box, c'est exactement ce que vient de dire Lucille. Moi j'ai bizarrement préféré le film de Culture Box, parce que j'ai trouvé que c'était plus resserré, qu'il y avait plus de rythme, ça durait 1h48 et la captation 2h04.
Absolument.
Et donc j'ai trouvé que c'était plus tenu, avec le plaisir de voir des acteurs en gros plan quand ils étaient un peu éloignés. Enfin, j'ai trouvé que c'était mieux maintenu, et donc j'ai pris plus de plaisir, je l'avoue, qu'à la captation, même si c'était dans le cadre des Bouffes du Nord et qu'on pouvait apercevoir un peu les Bouffes du Nord de temps en temps. Et sur le spectacle, c'est vrai que ça apprend des tas de choses, c'est bien joué. Il y a un côté dossier de l'écran, quoi, c'est sûr. Hein, la pièce, c'est pas forcément une de mes pièces, une pièce que j'adorerais comme ça en soi, mais ce que ça raconte, c'est vraiment d'utilité publique, et là. La position de Pauline Bureau, qui a toujours à cœur, là je crois qu'elle a un prochain projet sur l'avortement, qui a toujours à cœur de parler des femmes, ben c'est bien que de jeunes auteurs, elle a 40 ans je crois, s'y collent, et c'est vraiment formidable.
Thomas Corlin.
Alors moi, justement, je sais pas exactement comment aborder le truc, parce que je reconnais tout à fait les visées, je dirais, pédagogiques et d'utilité publique, parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre cet objet. Donc moi, j'ai plutôt vu la version semi-téléfilm, je dirais, genre téléfilm théâtralisé. Ça m'a un tout petit peu fait penser sur la forme, finalement, à ce qu'avait fait Lars von Trier à l'époque de Dogville, un petit peu ce théâtre filmé, mais qui n'en est pas non plus, parce que donc il n'y a pas la continuité temporelle du théâtre. C'est le langage du téléfilm, mais avec un air beaucoup plus compassé, finalement. Et ce qui m'a un tout petit peu gêné, donc cette histoire du médiateur, effectivement, j'ai appris beaucoup de choses aussi, et c'est très intéressant parce que ça mêle des milliards de thématiques, ça va de la corruption, de l'industrie pharmaceutique, jusqu'au diktat de la du corps notamment. Mais je trouvais que le point de vue est un petit peu celui du diktat émotionnel, en fait, parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Il n'y a pas de la prise de position, et ils exagèrent absolument tout, comme si l'histoire de base elle-même ne contenait déjà pas assez de violence. Donc je me suis demandé pourquoi ont-ils choisi cette forme, pourquoi ont-ils choisi ce point de vue. Donc ça m'a pas vraiment laissé beaucoup de place en tant que spectateur finalement.
Alors c'est vrai que ce soit la pièce ou je reviens quand même aussi au film d'Emmanuel Berco, pour partie sont basés sur les minutes, alors vous dites procès, mais il y a quand même disons des expertises, des audiences devant les experts. Donc il y a des vrais comptes rendus et ces réunions aussi avec l'agence de sécurité sanitaire, et, enfin j'ai plus exactement l'intitulé, pardon, mais avec un cynisme épouvantable face à Irène Frachon qui dit bah, « on peut pas attendre, il faut agir vite, oui bah alors la prochaine commission dans 3 mois, et la suivante dans 6 mois, etc. etc. » Tout ça est, voilà, existe bel et bien, on en a des attestations tout à fait claires. Après, la question que vous semblez soulever, Thomas, c'est plutôt... presque aussi une question de direction d'acteur, et on peut en venir à Marie-Nicole, parce que c'est elle qui est toujours l'interprète principale des spectacles de Pauline Bureau. Alors j'ai eu l'occasion ici de dire que j'avais un peu de mal avec cette comédienne, dont je reconnais à la fois une technique, je trouve absolument irréprochable, mais qui, cette technique lui sert à faire des choses que moi je n'apprécie pas. Effectivement, une recherche comme ça d'une émotion qui m'atteint pas forcément, Fabienne Pascaud.
Moi, je dois dire que je l'ai bien aimée. Alors, son nom, Claire Tabar, évoque Fabienne Tabar, là, dans le film de Truffaut, dont Jean-Pierre Léo est fou, ouais, et répète toujours en leitmotiv Fabienne Tabar. Et effectivement, elle a un côté Delphine Seyrig, je trouve, avec sa coiffure, ses boucles. Moi, je l'ai trouvée... Je comprends pas bien ce que vous dites quand vous dites qu'il recherche tellement l'émotion. Elle cherche pas tellement l'émotion, hein, Pauline Bureau. Elle est là, les faits sont assez concrets, basique, elle raconte. Alors évidemment, il y a l'enfant, il y a certaines scènes avec l'animal en peluche de l'enfant qui l'ouvre et c'est plein de sang. Bon, il y a quelques. Mais sinon, je trouve ça assez pudique. Ce qu'on pourrait peut-être lui reprocher, c'est qu'elle veut trop en dire, quoi. Elle s'est trouvée devant une somme de documents énormes. Et bon, il aurait peut-être fallu plus cerner les choses. C'est trop, c'est too much à chaque fois. Mais sur Marie-Nicole, moi, je l'ai trouvé plutôt très bien. Et très bien l'avocat aussi, Nicolas.
Alors,
Chupin,
je voulais en parler, évidemment, parce que lui, il est
sobre dans leur manière de jouer.
Alors, lui, il n'est pas sobre du tout, et elle non plus. Elle est absolument faussement sobre. C'est mon problème avec Marie-Nicole. Mais Nicolas Chupin, alors, j'avais déjà vu, notamment dans les spectacles de Pauline Bureau, mais j'avais pas. Et là, je trouve qu'il éclate véritablement. Revenir d'ailleurs sur le téléfilm, moi, je trouve que c'est. J'aime bien le travail de réalisation qui a été fait, je trouve vraiment ça très bien.
Parce qu'on les voit enfin en gros plan.
Et je trouve ça beaucoup mieux joué que nombre de téléfilms français ou séries françaises qu'on essaye de regarder pour les programmer dans notre émission, et vraiment on est désespéré par le niveau. Là, et notamment Nicolas Chupin, j'ai trouvé absolument éblouissant, et je trouve aussi bon dans le téléfilm, on dit ça comme ça, que sur le plateau de théâtre. Lucille Comeau ?
Oui, c'est assez étonnant d'ailleurs dans la première scène qui arrive assez tard, puisque l'avocat évidemment arrive assez tard dans l'histoire. C'est le seul moment où il y a une forme de gratuité du dialogue, où il y a de l'humour, par exemple, où il y a un truc qui sort justement
d'ailleurs,
du côté extrêmement
démonstratif. D'ailleurs, au bout d'une heure, dans la captation, on entend les gens rire,
oui,
à ce moment-là.
Oui, parce que c'est drôle,
c'est normal.
Il est extrêmement drôle. Et après, du coup, il donne vraiment quelque chose à ce moment-là, dans quelque chose de très lourd et de très dense. Il donne une petite couleur humoristique qu'on garde, qu'on conserve, qu'on associe à son physique, je pense aussi, et qu'on conserve jusqu'à la fin. Moi, je suis quand même assez d'accord avec Thomas sur le côté très lourd de l'émotion, mais je pense que en fait, quand on veut absolument articuler une démonstration politique à la question du cas individuel, ce qui est en fait exactement la forme de la pièce, c'est le tiers-actant. Enfin, c'est très difficile de faire sans. Et cette actrice, elle se retrouve toujours dans cet emploi-là, c'est-à-dire être l'espèce de cobaye. Là, c'est encore plus voilà, évident, parce que c'est une histoire de médicale, et que il faut dire quand même que dans la pièce de théâtre, elle est opérée sur scène. Moi, j'ai regardé d'abord le film, je me suis dit, mais comment elle a fait ça sur une scène? J'arrivais pas trop à imaginer. Et de fait, l'opération qui est censée être une opération à cœur ouvert, elle est vraiment jouée sur la scène. Donc c'est vraiment une actrice qui est le cobaye d'une démonstration politique. Et Je pense que c'est difficile de faire sans la densité, sans la lourdeur de l'émotion. C'est un peu le but du travail.
Après, j'ai quand même un petit peu l'impression que dans l'écriture, puisque visiblement ça a été une compilation, chaque personnage, à part celui donc de la médecin Irène Frachon, qui est donc tout simplement Irène Frachon, mais le personnage donc de Claire Tabar est apparemment une compilation de plusieurs témoignages. Donc ça fait quand même une surenchère dramatique quand même. C'est-à-dire, par exemple, elle a une hémorragie le soir.
Mais tout le monde a voulu maigrir.
Oui, non, clairement,
toujours,
bien sûr, bien sûr.
On revient à l'image absolument, cliché du corps de la femme,
qui doit être mince.
Ce qui est, par exemple, je veux dire, elle se fait tromper le soir de son anniversaire. Enfin, tout est quand même vraiment exagéré. Et surtout, les méchants sont méchants et les gentils sont gentils. C'est-à-dire que justement, il y a cette question de direction d'acteur. Ou par exemple, l'avocat des laboratoires Servier, donc, qui ont produit le Mediator. Bah, alors lui, il a un air pimbèche avec des petits airs pincés. C'est hyper exaspéré. Et de l'autre côté, l'avocat des droits des victimes est tellement un avocat des droits des victimes qu'il a fait ce métier parce que justement, il a été une victime. Il y a un peu un moment peut-être que tout ceci est vrai, mais ça déborde un petit peu et ça m'exclut surtout parce que justement alors donc sur la version téléfilm, il y a des faces caméra qui emploient quand même vraiment les codes et les ficelles des spots publicitaires pour l'humanitaire ou pour le cancer ou ce genre de choses. Ça gêne un petit peu. Il y a un moment, ça sort un petit peu d'une, ça empêche une lecture en fait analytique, je trouve. Ça m'a laissé là-dessus.
Moi, je suis bon public. Ouais. J'ai bien marché.
C'est connu,
j'ai... Oui. Non, là, je dois reconnaître que j'ai bien marché.
C'est un plaidoyer.
Et j'ai regardé deux fois. Hein, captation, une fois le téléfilm, une fois le matin, une fois le soir. Et j'ai bien accroché quand même.
Alors, vous en prendrez une fois le matin.
Et moi, j'aime bien Marie-Nicole.
Écoutez. Non, mais encore une fois, je trouve qu'elle a une technique absolument irréprochable. C'est qu'est-ce qu'elle en fait et qu'est-ce que Pauline Buron lui en fait faire. Je ne dis pas du tout que c'est une mauvaise interprète. Ce qu'elle génère et me met toujours dans une forme d'embarras.
Moi,
Oui, mais je comprends et je pense qu'elle émeut beaucoup de gens. Quand on voit en plus la tournée que je vais annoncer dans un instant, le spectacle créé il y a 2016, début 2016, me semble-t-il, et ça tourne encore beaucoup. Alors, il y a quand même un rectificatif essentiel, parce qu'il y a une émission de Laura Adler aussi, où Laura Adler recevait Irène Frachon, qui est utilisée dans le spectacle, dans un verbatim. Donc, c'est annoncé sur France Inter. Or, c'était Hors-Champ qui était sur France Culture. Donc, comme c'est dit dans le texte, il faut quand même rectifier. Alors, certes, depuis, Laura Adler officie sur France Inter, mais l'émission de quelle...
Il y a d'ailleurs la reprise de l'interview de radio, la situation de radio est quand même vraiment caricaturale.
Oui,
c'est extrêmement drôle. D'ailleurs, ça fait peut-être partie de l'humour, Lucille Comeau,
vous avez pointé. Ça m'a pas beaucoup fait rire. Là, pour le coup, je trouve ça très poussif.
Ça ressemble ni à Laura Adler, ni à France Inter, ni à France Culture.
Oui, ça, je suis d'accord.
Mais voilà. Enfin, en tout cas, c'était l'émission Hors-Champ dans laquelle Irène Frachon avait été invitée. Donc... Alors, je vais peut-être pas donner toutes les dates. Deux possibilités déjà, Mon cœur de Pauline Buron à voir sur Culture Box dans cette version téléfilm, mais aussi en tournée. Alors, après-demain, mercredi à Niort, à la scène nationale, le Moulin du Rock, ce sera le 5 décembre, le 8, ça va être samedi, donc je vais pas tous les faire comme ça, à Saintes. Ensuite, la semaine suivante, au TNBA de Bordeaux. Après, on passe au mois de janvier au Pont des Arts, c'est Saint-Sévigné, scène nationale de Flers, à Creil, à Paris-Villette. Retour à Paris donc du 23 janvier au 2 février pour Mon Cœur. Ensuite, on passe au mois de février à Saint-Étienne-du-Rouvray, au Théâtre Romain Roland de Villejuif, à Châtenay-Malabry, à la Piscine, au Théâtre Jean Harpe de Clamart, à la scène du Golfe de Vannes, et puis au mois de mars à Hérouville-Saint-Clair, la Comédie de Caen, la Comédie de Picardie à Amiens, la scène nationale de Chalon-sur-Saône, le Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon, et puis au mois de mai, Théâtre de Cornouailles, scène nationale, c'est à Quimper, et enfin, Théâtre national de Nice du 24 au 25 mai. Avec tout ça, si... je pense que Mon cœur de Pauline Buron passe pas loin de chez vous, forcément, ou sur votre écran internet. À suivre dans la dispute, 20 000 lieues sous les mers, Campana et un coup de cœur de Fabienne Pascoe.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute, spectacle vivant avec une reprise. Là encore, on n'avait pas parlé de ce spectacle à sa création. 20 000 lieues sous les mers, d'après Jules Verne, mise en scène Christian Eck et Valérie Le Sor. C'est jusqu'au 6 janvier dans la salle du Vieux Colombier de la Comédie Française. Alors comment recréer sur scène la magie onirique, aquatique, fantastique du livre et nous faire vibrer aux aventures du capitaine Nemo? Réponse de nos critiques après cet extrait.
Quand je vous ai repêché inanimé après votre chute, j'ai longtemps hésité à vous donner l'hospitalité.
J'aurais pu vous rejeter à la mer et oublier que vous n'aviez jamais existé. N'était-ce pas mon droit?
C'était peut-être le droit d'un sauvage, mais pas celui d'un homme civilisé.
Je ne suis pas ce qu'il en appelle! Un homme civilisé!
J'ai rompu avec l'humanité tout entière pour des raisons que moi seul ai le droit d'apprécier. Je n'obéis donc point à ces règles. Vous resterez prisonnier à mon bord, puisque la fatalité vous y a jeté.
Vos prisonniers?
Néanmoins, vous y serez libre.
Mais pardonnez-moi, monsieur l'officier, mais cette liberté n'est-elle pas celle que tout prisonnier a de parcourir sa prison? Elle ne peut nous suffire.
Il faudra qu'elle vous suffise.
Quoi? Nous devons renoncer à notre patrie, à nos amis, à nos parents?
Oui, monsieur.
Pour toujours?
Pour toujours.
Par exemple, jamais je ne donnerai ma parole de ne pas chercher à m'évader.
Je ne vous demande pas votre parole, maître Land. Vous êtes venu surprendre un secret que nul homme au monde ne doit pénétrer. Le secret de toute mon existence. En vous retenant prisonnier, c'est pas vous que je garde. C'est moi-même. Sachez que... Je vous connais, hein, monsieur Renax. Vous trouverez dans ma bibliothèque, parmi mes lectures favorites, cet ouvrage que vous avez publié sur les grands fonds marins. J'ai souvent lu.
Ah, le mystère des grands fonds marins. Oui, j'en suis très honoré. Oui, oui, c'est un livre, je dois bien l'avouer, particulièrement goûté du monde savant.
Vous avez poussé votre étude aussi loin que vous le permettez la science terrestre. Mais cet ouvrage est incomplet. Laissez-moi donc vous dire, monsieur le professeur, que vous ne regretterez pas le temps passé à mon bord. Vous allez voyager au pays des merveilles. À partir de ce jour, vous entrez dans un nouvel élément et vous verrez ce qu'aucun homme n'a encore vu.
Pardonnez-moi, monsieur l'officier, mais de quel nom doit-on vous appeler?
Je suis le capitaine Nemo. Et vous êtes à bord de mon sous-marin, le Nautilus.
Voilà, on aura reconnu Christian Eck, non seulement co-metteur en scène avec Valérie Le Sort de cette production, mais aussi l'interprète du capitaine Nemo. Fabienne Pascaud.
Ah, c'est un enchantement que ce spectacle transgénérationnel, parce que je pense qu'il plaira aux petits comme aux grands. Moi, je l'avais vu à la création, je ne l'ai pas revu parce qu'en plus il affiche complet. Donc c'est difficile d'avoir des places, mais j'avais été très on rentre dans le songe du capitaine Nemo, on rentre dans une sorte de cabinet de curiosité noire où il y a tout un tas d'effets spéciaux pour figurer les animaux des fonds marins, où les comédiens deviennent des manipulateurs de monstres. Donc on est confronté autour de scènes brèves qui réduisent le roman à quelques scènes fortes, à tout un tas de jeux magiques et on est transporté dans un univers d'enfance, de mystère, de féerie, dans lequel moi je suis pleinement rentrée parce que c'est court, bref, avec des acteurs, avec des tronches pas possibles, avec Christian Eck qui, malgré tout, malgré le fait que la pièce soit une vraie réduction du roman, maintient la mélancolie et la noirceur du personnage, un peu suicidaire, un peu inquiétant, un peu sombre et solitaire. Et donc finalement, ce mensonge constant, puisqu'on voit de la manipulation, on voit des effets spéciaux à travers des hublots, il y a soit un hublot, soit plusieurs hublots, et ben finalement ce mensonge totalement théâtral nous fait rentrer dans la vérité littéraire de l'œuvre mieux que tout, mieux qu'un film sans doute, et donc ça j'ai beaucoup apprécié.
Thomas Corlin, est-ce que vous étiez lecteur de Jules Verne d'abord?
Très peu. Très très peu.
Non mais voilà, faut savoir un peu d'où on parle.
Et effectivement,
moi qui ai pleuré à la mort du capitaine Nemo. Oh,
j'ai dû me replonger dedans.
C'est pas dans 20 milieux.
J'ai dû me replonger dedans un petit peu parce que quand même c'est assez fondateur de notre imaginaire en termes même de conquête, de géographie, même de tout ce qu'on appelle l'émerveillement, la science-fiction, etc. Et donc j'avoue que j'ai pas été totalement charmé. J'étais un petit peu déçu. J'étais assez frustré parce que vraiment j'y allais avec la meilleure bonne volonté. Ce qui m'a un peu étonné, c'est qu'on parle d'un spectacle qui effectivement est familial parce qu'ils ont vraiment adapté donc le roman de Jules Verne qui est assez long en fait. Une sorte de Reader's Digest, pardon.
Il faut pas se lancer dans l'anglais. Hein, quand on maîtrise pas ton accord là.
Voilà. Donc un Reader's Digest du livre pour le répéter. Mais au final, on va rarement dans l'imaginaire. On dit souvent que le théâtre est censé être le lieu de l'imaginaire. imaginaire pour les enfants. Mais quand même, cet imaginaire, il est très très codé là. C'est-à-dire que justement, ces marionnettes qui sont virtuoses, enfin ça on peut pas dire le contraire, avec donc un système d'éclairage latéral et de fond noir. D'ailleurs, bon, je spoil pas, mais à la fin, il y a vraiment une intervention, on passe de l'autre côté de l'illusion. Ben, elle reste quand même dans les codes de, ben, des productions Pixar animées. Tout est très très littéral, descriptif. Et par ailleurs aussi, finalement, tout ce qu'on voit dans le théâtre.
Il y a des vrais quand même, je sais pas.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ce sont vraiment, on est dans l'univers marin. Et ensuite, finalement, là aussi, tout ce qu'on voit de ces comédiens, on est un petit peu dans la reconstitution télévisuelle d'un Tintin ou quelque chose comme ça. Alors, c'est un registre comme un autre, mais on sert aux enfants ce qu'ils voient déjà au cinéma et ce qu'ils voient déjà également à la télévision. En dehors de ça, je trouve effectivement que Christian Hegg, donc, qui est à la fois co-metteur en scène et acteur, restitue quelque chose du Capitaine Nemo, notamment dans ses contradictions, puisque c'est un personnage assez étrange, tout comme Jules Verne, qui d'ailleurs, politiquement, a eu des phases très très, on va dire, aux antipodes les unes de l'autre, voilà. Mais donc, il y a un peu cette chose-là. Non, mais il en parle néanmoins. Dans la pièce, il en parle très très clairement, puisque c'est un personnage d'un côté, donc, de pirate misanthrope, qui s'est coupé du monde parce qu'il a eu une sorte de traumatisme par rapport à des colons. Mais en même temps, lui, même, ce qui n'est pas, non, ce qui n'est, je spoil rien, quand même, ça reste.
Non, ne divulgage pas,
mais néanmoins, lui aussi a un peu ce comportement tyrannique avec son équipage. Donc, ça, c'est le seul endroit où on a un personnage qui a de la matière et où on y croit, on a envie de rentrer dedans. Néanmoins, ça, je n'ai pas eu l'émerveillement. Je suis pas arrivé à la voir. C'est pas venu, quoi.
Ah, bah, c'est-à-dire qu'on l'a ou pas, hein. Bon, alors, Lucille Comeau. Alors, il faut quand même, là aussi, faire un peu de gonzo journalisme pour expliquer que vous avez vu une représentation un peu particulière. Non, mais c'est,
ça
compte.
Plus, ah bah,
moi,
vrai.
J'y pense
oui,
pour
si,
vous.
Si, si, ça compte.
Quand Fabien a dit que c'était assez court comme spectacle, pour vous, non.
Oui, pour moi, c'était long. Il y a eu des problèmes de rideau et de fait, des problèmes de cintre, en fait. Donc, du coup, gros problème, ils ont arrêté plusieurs fois la pièce.
Ouh. Et oui, c'est, mais en même temps, c'est compliqué du coup. Hein.
Oui, mais c'est vrai que là, que vous me dites ça, ça amplifie encore le caractère ultra technique de la pièce et à quel point ça dépend quand même beaucoup d'artisanat en fait.
La pièce elle dure 1h30.
Oui, tout à fait. Alors moi, ça a duré beaucoup plus longtemps. Mais au-delà de ça, même du problème technique qui de fait n'était pas
gêné, ça casse un peu de merveilleux quand même.
Oui, mais j'étais quand même pas à fond.
Vous êtes une professionnelle.
Non, je suis assez mitigée aussi. Peut-être pas pour les mêmes raisons que Thomas. Moi, je trouve que, pour le coup, je rentre à plein dans la scénographie que je trouve superbe, qui est en fait une sorte de machine géante avec des mini-machines à l'intérieur de la machine, puisqu'on est dans le sous-marin, qu'il y a un fond un peu bibliothèque, le cercle anglais un peu chic. On a l'impression qu'on pourrait boire du bourbon avec les beaux livres à jardin. À court, il y a une sorte de cabine qui monte et qui descend, qui est remplie de petites machines dans laquelle apparaît le capitaine Nemo et qui lui sert à la fois de tours de pilotage, de gouvernail, etc. Donc il y a plein de petites mécaniques un peu partout. Ça c'est beau, ça reluit, c'est magnifique à voir. Et puis moi je trouve les marionnettes vraiment très très belles. Tous les passages de marionnettes, en effet, il ne faut pas trop en dire.
Non.
Parce que c'est impressionnant, il y a quelque chose. On a des moments presque chorégraphiques de ballet qui sont très très beaux. Par contre, moi je trouve que travaille un peu contre ça la façon de dire le texte, la façon dont il est découpé déjà. On a vraiment les jalons, les arcanes de la narration. Et moi je trouve qu'on perd beaucoup au personnage de Nemo, que j'aime beaucoup aussi, et qui est un peu un clown quand même. Et son ambiguïté, peut-être que vous avez beaucoup le texte en tête, moi je l'avais plus. Je trouve qu'on la perd quand même énormément. Tout ça est très très lisse en fait. Les personnages sont très figés dans une forme de burlesque qu'ils partagent tous. Je le trouve assez lisse tel qu'il est représenté moi dans cette pièce-là. Mais en même temps, ça dure 1h20. Il y a énormément d'effets. C'est très difficile de rendre le romantisme parce que c'est quand même un personnage assez romantique de Nemo. Et puis même la diction, c'est une diction très très comédie française. Pour le coup, vous parliez de Tintin. C'est vrai qu'il y a quelque chose de ça. C'est pas totalement contradictoire. Qui, à mon avis, aplanit énormément les choses. Et moi, je me suis quand même ennuyée, vraiment. Je trouvais ça un peu ennuyeux, j'attendais les passages, j'attendais le cannibale, le fameux repas. Et en dehors de quelques petits faits d'armes, notamment Flippos, qui là est interprété, je pense que c'est pas le même acteur, parce que là c'est une actrice par François Gillard, là, dans la version qu'on a vue, qui est extrêmement drôle, qui a un physique complètement. Qui déconnecte pour le coup. Les autres personnages, en effet, c'est un peu Capitaine Haddock, les Dupont et Dupont, on a l'impression d'un retour de cliché, et du coup ça évolue pas beaucoup. Ceci étant dit, j'étais devant. des petits-enfants vraiment petits, et ils ont quand même été scotchés alors qu'il y a eu une heure de pause. Donc, en effet, je pense que c'est un magnifique spectacle pour les enfants, et que le côté simple et la diction très comédie française, ça sert de ce point de vue beaucoup le spectacle.
Oui, mais alors, c'est vrai que alors, je suis très fan de Jules Verne, enfin, je l'ai été, donc je suis resté, finalement, même si ça fait longtemps que je n'ai pas relu. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout le Capitaine Nemo. C'est effectivement une réinterprétation. On repart sur les mêmes jalons de l'histoire, mais pour moi, ce n'est pas du tout 20 milieux sous les mers. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On s'en éloigne beaucoup. C'est une forme de libre interprétation de ce récit et surtout des personnages. Mais bon, comme par ailleurs, j'aime beaucoup Christian Eck comme comédien, bah, je suis heureux de le voir toujours sur scène. Mais surtout, je suis sensible au travail qu'ils font en mise en scène avec Valérie Lessort. Leur talent confirmé dans ce magnifique domino noir à l'Opéra Comique dont nous avons parlé ici, c'est quand même un tandem qui réussit des choses qu'on voit pas souvent sur les plateaux de théâtre ou des scènes lyriques. Donc c'est vrai que je trouve que c'est assez légitime que ce spectacle revienne pour cette fin d'année, pour les fêtes, et que je pense que la Comédie Française pourra le reprogrammer assez longtemps et que l'émerveillement sera au rendez-vous. Alors tout dépend effectivement ce qu'on attend.
C'est une rêverie autour de Nemo.
Tout dépend de ce qu'on attend quand on va voir ce spectacle. Voilà. Plus il joue et plus on en entend parler, plus c'est complet et plus on veut le voir. Et l'attente est forte. Peut-être qu'il faudra y aller sans rien savoir. Mais rêverie, disiez-vous, Fabienne Pascaud ?
Oui, parce que vous avez raison. Ça ne prétend pas
pas être une... C'est vrai que c'est un gros livre. Hein,
voilà, c'est un livre énorme. Donc c'est plutôt une rêverie autour de ce que peut susciter le souvenir du Capitaine Nemo dans les mémoires, dans les têtes, et une transmission de cette magie et de ce mystère. Mais ça prétend pas, comme vous l'avez dit, ça prétend pas être tout le roman. Hein.
Et en même temps, c'est vrai que cette utilisation, vous parlez de Pixar, alors évidemment, quand il y a les poissons, les plus jeunes enfants se disent « Ah ben, c'est Nemo qui arrive, parce que... » sauf que ce poisson...
Je trouvais ça plus infantif, ce plus poisson, inventif il existe... et plus poétique que Pixar, quand même.
Ah ben, il y a des Pixar très Pixar. Très bien. C'est pas du tout... c'est l'effet, on reconnaît. Enfin, c'est l'effet.
Je pense qu'il y a aussi un petit Thomas Corlin. Je pense qu'il y a aussi un petit peu d'humour. Et puis, j'ai vu un espèce de clin d'œil. Il y a un moment, je sais pas si c'est moi, mais j'ai vu un clin d'œil au Rocky Horror Picture Show. Je sais pas si je suis le seul, vraiment.
Ça
doit être
vous, alors.
Mais je pense vraiment que c'est Riff Raff et Frankenfurter, vraiment. Je trouvais qu'il y avait plusieurs, stylistiquement, il y avait plusieurs.
Bon, c'est très possible, venant de Christian Eck, Valérie Lessort, qui est cette référence.
Oui. C'est ce que je me suis dit, vraiment. Parce que ça me semblait clair, quand même, dans la pièce.
Moi, j'ai pas votre science.
Non, non, mais sur la rêverie, je suis vraiment pas tout à fait d'accord. Parce qu'il y a à l'intérieur des moments de rêverie, je suis d'accord, mais sur la forme globale, c'est quand même extrêmement carré. On a vraiment les épisodes les uns après les autres. Il y a une forme sérielle, on a le cannibale.
Une sélection des épisodes.
Hein. Oui, mais c'est très. Une réduction. Enfin, moi, je trouve c'est très narratif. Enfin, la forme, c'est quand même.
C'est également très très littéral et descriptif par rapport au livre. Il n'y a pas de prise de position en fait. Notamment la scénographie est très muséale finalement. Mmh. C'est vraiment la manière dont on imaginait la science-fiction dans le 19e siècle. Donc il y a pas, enfin ça ne nous dit rien sur la manière dont nous, par exemple, ça pourrait pas en miroir, on pourrait imaginer comment est-ce qu'on voit le futur, comment est-ce qu'on voyait le futur à l'époque. Mmh. Après il y a des thématiques qui reviennent, il y a un petit
quand
clin d'œil.
Quand on pense à Nemo, on peut pas l'imaginer en 2050 quand même.
On aimerait bien, justement. Bah j'aurais voulu voir une petite prise de position, mais... par exemple.
Non, pas sûr.
Non. Après bien, oui,
parce que ça on le voit souvent et c'est rarement réussi aussi. Hein.
Il est vrai, vrai. Mais...
Il y a beaucoup de soucoupes volantes sur les plateaux d'opéra en ce moment, on en parle régulièrement. c'est pas pour
c'est
le
pas
meilleur, généralement.
Mieux.
Clairement, bon, clairement.
Pourquoi pas?
Mais il y aurait pu avoir une prise de position par rapport à ça. J'ai trouvé ça très littéral et relativement plat, en fait, comme disait Lucile Comeau sur 20 milieux sous les mers.
Lucile.
Moi, j'ai aussi beaucoup pensé au cinéma de Jean-Pierre Jeunet et de Wes Anderson, enfin ce type de cinéma qui a quelque chose d'extrêmement, séduisant. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire, le côté on aime les gadgets
et
du coup
c'est
ça donne.
Alors, et donc,
oui, mais c'est inventif dans un cadre extrêmement restreint qui fait que ça donne en effet une sorte de plateau avec de plateau figé. C'est vrai que par exemple, en y pensant,
au théâtre,
il y a en effet plein de petits.
C'est forcément figé, Lucile.
Non, ça peut bouger. Non, ça peut bouger. Et d'ailleurs,
c'est plus fétichiste que visionnaire.
Ça bouge un peu au bout d'un moment.
Ça bloque un peu.
Au bout d'un moment, justement, il y a tout un passage que j'ai beaucoup aimé, moi, qui est plus rapide. Où d'ailleurs, c'est Cécile Brune, qui fait la voix off, qui donc raconte. Il y a une accélération, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas raconter toutes les étapes du sous-marin. Et donc, du coup, le sous-marin se ferme. Sur la scène, on ne voit que trois hublots et on a quelques aperçus de ce qui se passe à l'intérieur, des tout petits clichés un peu de la vie quotidienne dans le vaisseau qui sont extrêmement moment drôle. Là, c'est plus vif. Il y a quelque chose de plus rapide. Et là, ça fonctionne très bien. Le reste du temps, quand en effet tous les rideaux sont ouverts et qu'on a cette bibliothèque avec toutes ces petites choses qui reluisent, je le redis, ouais. Il y a quelque chose en effet d'assez muséal. D'accord, dans la scénographie.
Néanmoins, il y a quelque chose de très confiné aussi qui, à mon avis, s'y est très bien au côté claustrophobe du sous-marin, mais c'est vraiment la seule qualité que je trouverais à la scénographie, personnellement.
La comparaison ne vaut jamais raison, mais on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, en n'en disant pas grand bien, d'un Faust qui était présenté au Vieux-Colombier, mis en scène par deux tenants de la nouvelle magie, Raphaël Navarro et Marguerite, j'oublie son nom. Non, Marguerite, ça c'est Faust peut-être. pardon, vous voyez de quel spectacle je parle. Il y avait quand même cet effet,
il y avait Christian
qui jouait, mais il y avait pour le coup cet effet vieille bibliothèque, côté fétichiste, sauf que ça décollait pas. Et ici, je trouve que par comparaison, ça décolle quand même infiniment. Parce que il peut y avoir cette tendance, peut-être parfois encore dans les productions de la Comédie française, qui pourtant a vu beaucoup d'air nouveau et frais arriver. Moi, je trouve que le procès est peut-être un peu fort.
Je trouve que l'introduction part vraiment très très bien néanmoins, parce que vraiment, on est dans le noir au début. Et il y a donc cette expression de la crainte, de la connaissance. Il y a une lumière qui arrive, ils savent pas ce que c'est à l'époque, puisque donc Jules Verne était obsédé par tout le progrès technologique. Et donc ils arrivent là, ils ont peur de ça, finalement ils se rendent compte que c'est une lumière, et puis donc la pièce peut commencer. J'ai trouvé ça hyper beau, et après tout ce qui arrivait après m'a été finalement assez plat.
Bon, c'était Valentine Losso, le souffle, Alexandre Fougeron qui réalise cette émission, qui était avec Raphaël Navarro pour cette mise en scène du Faust. Hein, merci à lui. Bon, allez voir, faites-vous plaisir.
C'est une bonne pièce de Noël.
Mais pas que.
Non, pas que.
C'est un beau travail. Bon, allez, on n'est pas d'accord et c'est comme ça. On est là pour exprimer nos regards et nos ressentis, et du moins qu'ils sont argumentés. 20 milieux sous les mers, d'après Jules Verne, mise en scène Christian avec Valérie Le Sort, c'est jusqu'au 6 janvier à l'affiche du Vieux Colombier pour la Comédie française. C'est le moment du coup de cœur de Fabienne Pascaud pour Stück Plastique, titre non traduit d'une pièce de Marius von Mayenburg, mise en scène Maya Sandoz, c'est au théâtre studio d'Alfortville. Stück Plastique, ça veut dire morceau de plastique, non ?
Morceau de plastique, oui, j'imagine.
Mon allemand est vraiment à son sommet là.
C'est une pièce qu'on avait vue monter par TG Stan avec une grande liberté, une grande audace, montée de manière violente. Là, c'est monté de manière un peu plus classique, si on peut dire, par Maya Sandoz, qui est une metteuse en scène comme Pauline Bureau. C'est des filles qui débarquent aujourd'hui et qui réinventent avec insolence le théâtre. Hein. Il y a beaucoup de metteuses en scène femmes, il faut quand même leur rendre hommage. C'est très bien.
Et on en voit beaucoup à la Comédie française aussi, hein. Et on en verra encore plus.
Exactement.
La Pauline Bureau, non ? Il y a quelque chose qui est prévu à la fin de la saison, non ?
Oui, justement sur l'avortement, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Cette production, ce sera à la Comédie française, voilà.
Alors là, elle s'empare d'une pièce de Marius von Mayenburg, qui est un des auteurs attitré de la Schaubühne de Berlin, qui est né en 72, donc qui est un jeune auteur un peu iconoclaste sur la société allemande et occidentale. Et là, il met en scène des bobos, hein, soyons clairs, des bobos pleins de bonnes intentions. Lui est médecin et rêve de partir du côté du tiers-monde pour aider les pauvres et les malheureux en puissance. Elle travaille dans l'art et elle est l'assistante d'un créateur absolument vampirique et fou. Et tous les deux ne peuvent pas s'occuper de leur pauvre fils qui passe sa vie avec une tablette parce que papa et maman ne s'occupent absolument pas de lui. Et donc, il multiplie les gouvernantes qu'il chasse à tour de rôle. Et enfin, ils arrivent à en trouver une. Et ça va être interprétée par Maya Sandoz elle-même. Et ça va être le passage à tabac de la relation maître-domestique. Parce qu'ils sont odieux, ces gens de gauche bien-pensants sont évidemment odieux avec elle. La maîtresse de maison, pourtant très artie, très branchée, très ouverte sur le monde, trouve qu'elle transpire, donc ne peut plus la supporter parce qu'elle transpire. Enfin bref, il va y avoir quantité de situations insupportables, de mesquinerie, de médiocrité, parce que l'artiste aussi, à un moment, la trouve tellement chic qu'il veut faire une installation autour d'elle. Ou enfin bref, je vous en passe. Tous nos comportements bourgeois sont disséqués avec une méchanceté par Marius von Mayenburg, une méchanceté réjouissante parce qu'on se retrouve avec nos bons sentiments, nos convictions qui ne ressemblent absolument pas à la manière dont on se comporte avec les autres, hein, vous comme moi, voilà. Et
merci de m'inclure, Fabienne.
Non mais
bien sûr, voilà. Nous sommes d'accord.
Et donc elle a monté ça, Maya Sandoz, avec un sens du burlesque et de la tragédie à la fois qui est constamment réjouissant. On en prend plein la gueule. Je ne révélerai pas la fin,
non.
Mais ça se termine très mal, vous l'aurez compris. Et c'est surréaliste, burlesque, fou, méchant, cannibale. Et c'est très réjouissant à voir.
Forcément. Et ce sera à voir ce stuc plastique au Théâtre Studio d'Alfortville du 13 au 22 décembre et puis du 8 au 11 janvier à la MC2 de Grenoble.
La dispute. France Culture.
Le dernier spectacle au sommaire de cette émission, on fait vraiment des grands écarts ce soir, hein, c'est Campana, par le Cirque Trottolin. C'est jusqu'au 22 décembre au 104 Paris, puis en tournée, là aussi je donnerai des dates tout à l'heure. On retrouve dans ce spectacle Bonaventure Gacon. On avait parlé dans cette émission 2013, ça date un peu, mais de son spectacle de clown en solo, Par le Boudu. On le retrouve cette fois en piste avec Titoun, cofondatrice avec Bonaventure du Cirque Trottolin, mais il y a aussi deux musiciens, Thomas Barrière et Bastien Pélinck. Un peu de fanfare, je crois, à cette heure-ci dans la dispute. Et c'est le Cirque Trottola qui nous l'offre avec ce son venu de Campana. Thomas Cornin commence à nous en parler. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on découvre si on se rend ces soirs-ci et jusqu'au 22 décembre au 104 Paris?
Eh bien, nous avons un duo entre une acrobate plutôt androgyne, d'ailleurs. Je l'ai trouvé assez androgyne. Et un clown. Alors là, on a d'un côté, on va dire, le poids plume. Et le clown, c'est plus le poids enclume. Et également, donc, ils sont accompagnés de deux musiciens, donc, que vous avez cités tout à l'heure, Thomas Bernier et Bastien Pélinck, dans un chapiteau. Donc, en fait, il y a une verticalité assez impressionnante, puisqu'on regarde vraiment d'en haut en bas. J'essaie de faire le geste, mais je peux pas m'éloigner du micro.
C'est très radiophonique.
N'est-ce pas?
Absolument.
Et, il y a également, donc, on est sur une piste de cirque, tout ce qu'il y a de plus classique en soi, mais qui est percée de trappes, dont sort tout un univers et qui justement évoque, je dirais, un monde qui est plus gros que le nôtre. C'est-à-dire qu'on appartient à quelque chose de vraiment énorme. Mmh. On est sur une forme, donc le spectacle s'appelle Campana Cloche pour une raison qu'on va peut-être évoquer tout à l'heure. Le spectacle est très bien dosé entre des moments donc de cirque assez classique, c'est-à-dire trapéziste, moments d'acrobatie, et des moments plus abstraits, voire opaques, presque métaphysiques par des toutes petites touches. Et les uns influencent les autres, c'est-à-dire qu'on ne sait plus exactement s'il s'agit d'un spectacle de cirque avec des éléments de théâtre contemporain ou l'inverse. Et j'ai trouvé personnellement le spectacle vraiment troublant. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où je suis allé au cirque. Je ne suis même pas sûr d'y avoir vraiment été quand j'étais enfant. Et j'ai trouvé que c'était un cirque assez inquiet. Un cirque plus que mélancolique, pas dans le sens d'une poésie circassienne un petit peu kitsch. Et j'ai trouvé finalement que leur manière d'aborder des thématiques qui peuvent être parfois assez lourdes, hein, je veux dire, ils avaient vraiment par petites touches des éléments assez politiques, la crise des migrants est évoquée, mais pas de manière didactique, voire un petit peu lourde, comme ça peut être le cas dans de nombreuses pièces de théâtre contemporain aujourd'hui. Il y a aussi une manière d'évoquer d'autres figures, c'est-à-dire par exemple, il y a un peu des personnages récalcitrants à l'univers du travail. On a un clown, le clown, il est ouvrier et il jette ses instruments dans un de ces trous béants qui sont creusés dans la pièce. Et il y a toutes les blagues, les moments finalement acrobatiques sont âpres. Il y a un fond, il y a une tristesse, il y a un truc bizarrement poignant et également qui est également amené par des tout petits moments de texte. Par exemple, ils posent des questions très très simples, ils arrivent en disant on en est où, il se passe quoi ici, est-ce qu'il nous reste du temps. Ça m'a personnellement vraiment bouleversé d'une manière à laquelle je m'attendais pas du tout. Je ne me rends pas compte si le cirque a normalement cette puissance très très forte d'éloquence, d'évocation. Donc j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison, mais que j'en ai une expérience qui m'a vraiment interrogé, même dans ma manière de percevoir le théâtre, la danse contemporaine, la performance. On remet beaucoup en cause le corps et puis aussi on challenge beaucoup le corps des performeurs. Et ça m'a fait penser, alors je ne sais absolument pas de qui est cette citation, je l'avais entendue une fois, elle m'avait toujours marqué. Apparemment, quelqu'un qui avait vu un spectacle de Castellucci quand il avait repris l'Enfer de Dante à Avignon. Apparemment, il était assis à côté de quelqu'un qui se posait la question et qui disait est-ce du cirque ou est-ce de la poésie? Et là, pour le coup, avec le cirque Trottolas, c'est un peu les deux, quoi.
Bon. Voilà. Lucille Como.
Oui, je reviens justement sur cette couche un peu mélancolique, grave, qui surnage au-dessus du cirque traditionnel sous ce chapiteau-là, qui est un petit chapiteau. Et c'est très impressionnant aussi, je pense. Moi non plus, je me souviens pas du tout de la dernière fois où je suis allée au cirque. Je suis pas non plus sûre d'y être beaucoup allée dans ma vie. Mais là, moi, j'étais au premier rang de ce petit chapiteau où il y a quelques gradins, où j'étais vraiment collée. J'avais l'impression même de sentir presque la sueur de Bonaventure Gacon, qui suit beaucoup. C'est très impressionnant. Et cette couche-là, elle est quand même très beckettienne, et toutes ces questions-là, moi, ça m'a fait immédiatement penser au théâtre de Beckett. Et là, je me suis dit, t'es vraiment une intello chiante, parce que tu vas au cirque et tu as des réflexes qui sont en effet des réflexes de littérature, alors que Beckett, lui, il avait probablement vu du cirque, et c'était même de là d'où venait.
T'es très ami avec Keaton.
Et du coup, je voyais l'espèce de truc un peu primitif en dessous du texte de Beckett, et c'est magnifique, même le fait que les personnages arrivent par, en effet, le dessous. On les entend avant de les voir et ils arrivent par une trappe en dessous et ils arrivent dans une sorte de fumée et le trou, même tout ce qui est trou, c'est extrêmement beckettien. Bon, il se trouve que moi, en plus, j'étais en face de Denis Lavant qui était vraiment juste de l'autre côté. Et je sais, c'est pas possible. J'ai cru que c'était pas lui, puis quand même, c'est Denis Lavant, on le reconnaît. Et alors, au début, moi, j'avoue, j'ai mis du temps par ailleurs à rentrer dans le spectacle quand même. J'ai beaucoup regardé Denis Lavant regardait le spectacle en essayant de m'accrocher à un autre gars. Parce
il riait tout le temps, il était
oui,
émerveillé.
Oui, il était
moi aussi,
complètement
là ce soir-là.
Vous deviez être derrière moi alors. Je vous ai pas vu. Il était en effet totalement émerveillé et je me suis dit, bon, c'est ça qu'il faut avoir comme attitude. J'avais du mal à l'avoir. Moi, par exemple, les numéros très traditionnels de cirque et notamment les numéros de trapèze, j'ai énormément de mal à être impressionnée par ça. En fait, je ne vois pas.
Chez vous, c'est pour ça.
Non, pas du tout. En plus, je suis nulle, mais je ne vois pas. Ce qu'implique la performance physique. J'étais beaucoup plus intéressée par les moments de déplacement sur l'arène où, par exemple, leur sifflet, parce que pour se tenir au courant de est-ce qu'on est prêt à sauter, ils sifflent. Tout ça, ça m'intéressait, tous ces codes-là, les poulies, la mise en place du matériel. Mais les sauts en soi, le fait de passer d'un trapèze à l'autre, tous les effets de balançoire, vraiment, en fait, je n'y suis pas sensible. Je n'arrive pas à voir la performance derrière ces gestes-là. Après, par exemple, on y reviendra peut-être, mais les numéros de clown, qui sont en effet des numéros de clown assez traditionnels, là, pour le coup, ça m'a beaucoup fait rire. J'étais beaucoup plus à l'aise. Mais j'ai mis vraiment du temps à accepter le pacte de spectateur à spectacle. C'était un petit peu difficile pour moi.
Fallon Pascoe, qui est bon public, comme
oui,
on le sait.
Qui est bon public et qui est regardé aussi Denis Lavant. Parce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça semble du cirque. Moi, je vais beaucoup au cirque, donc j'aime beaucoup ça. J'aime bien les performances, j'aime bien avoir peur. Et ça semble du cirque à la bonne franquette, quoi. Les numéros, ils sont pas aussi spectaculaires qu'on peut en voir. Alors justement, je regardais Denis Lavant pour voir. Lui, c'est un ancien circassien, Denis Lavant. Donc pour voir s'il applaudissait et si les numéros étaient vraiment plus compliqués qu'on aurait pu l'imaginer. Et effectivement, il avait l'air de trouver que c'était très très virtuose. Donc cette apparente simplicité des Trottola, et bien finalement ça révèle une grande maîtrise. Moi, ce qui m'a ému, c'est évidemment comme le disait Lucille, c'est qu'on pense à Beckett tout le temps par les questions qu'il pose, qui sont vraiment métaphysiques dès le départ. Hein, c'est ce que disait Thomas. Et puis ce couple improbable qui pourrait être Vladimir et Estragon, ou les personnages de fin de partie, quoi, qui sont là, qui errent dans un monde qu'ils comprennent plus, qui disparaissent, qui se donnent des rendez-vous, qui se retrouvent, qui font des bêtises, et tout en posant des questions essentielles, ça m'a aussi évoqué Fellini. Et La Strada, entre autres, hein, elle a un petit côté Giulietta Massima, voilà,
petite chose,
donc,
quoi, une brindille.
Exactement, exactement. Mais ce qui est émouvant aussi, c'est je trouve qu'ils sont pas jeunes tous les deux, et donc il y a une usure du temps dans des corps un peu fatigués. Ils font pas attention à leur ligne, ils ont pas pris de médiator, sauf elle qui est toute menue, bien sûr, pour revenir au cœur. Mais c'est ça qui est beau aussi, c'est cette fatigue qu'on peut voir chez ces artistes qui ont donné leur vie au cirque, qui sont là, qui nous proposent leur expérience, leur vie après avoir tout traversé. Et ça, je trouve ça aussi très très bouleversant dans le spectacle.
Alors c'est vrai que j'ai pas encore vu ce Campana. J'avais vu un précédent qui s'appelait Matamor, et en plus de Par le Boudu. Et c'est vrai que je retrouve dans ce que vous dites tout ce qui m'avait énormément plu dans le travail du cirque Trottola, parce qu'il y a effectivement quelque chose de... Moi, je suis très sensible quand même au numéro, et il me semble voir que c'est effectivement faussement simple, et quand même il nous laisse entre-apercevoir, pardon, mais pas de façon
c'est tout simple,
c'est familial, voilà. Il y a pas de spectaculaire,
c'est pas ostentatoire, c'est pas souligné, parce que moi aussi j'en vois pas mal de cirque, et bon, on nous fait bien comprendre généralement qu'on assiste à quelque chose d'exceptionnel, et eux il y a un truc d'artisan vraiment, très noble,
Lucie, en fait, ils montrent tout, les câbles. En fait, alors moi, j'étais vraiment à côté. Je voyais exactement à quel endroit de la poutre on accrochait. On peut pas imaginer une seule seconde, par exemple, que Titou n'allait pas en rappel. Enfin, Bonaventure Gacon, il est vraiment juste en dessous. On le voit tirer les cordes pour l'aider à faire les sauts. Et ça, justement, ça, c'est ce qui m'a plu. En fait, c'est même la mise en scène du spectaculaire par en effet le pathos. En fait, il retourne totalement l'effet potentiellement pathétique qui est un des ressorts du cirque, je pense. Même chez les clowns tristes, etc. Ils le déplacent, enfin, ils le mettent à la fois, ils le portent dans leur corps, et puis ils le déplacent, en effet, dans ces effets. C'est drôle que vous ayez parlé des migrants et de l'évocation de ça, parce que j'ai pensé à ça immédiatement, dans ce numéro de clown qui finit un peu mal. En fait, Bonaventure Gacon chasse Titoun, qui se retrouve dans le trou, et après il dit, mais il était tout petit, il avait rien à manger, et puis je l'ai laissé partir. J'ai écrit crise des migrants sur mon carnet, mais je me suis dit, mais non, enfin, c'est pas ça. Et en effet, le fait juste de nous faire douter, et à ce moment-là, dans un numéro de clown, d'amener ce type de réflexion, c'est très fort, parce que c'est rien. Ça tient vraiment à très, très peu de choses.
Et également, Thomas, je trouve qu'il n'y a pas de rendement du temps par rapport, je dirais, à une sorte de truc de gag ou également de spectacle. Justement, on n'est pas spécialement impressionné par toutes les acrobaties. Elles ont presque autant d'importance que toutes les autres séquences. Ce qui fait qu'en fait, ça inocule quelque chose de plus que mélancolique, même d'un petit peu urgent, vaguement. En tout cas, je m'attendais pas à ressentir ça au cirque, du moins.
Bon, on est bien là sur le cirque Trottola.
Vous allez plus loin au cirque, jeunes amis.
Définitivement, définitivement.
Non, mais c'est vrai, moi je crois que j'ai peur en fait. J'ai vraiment peur du cirque, c'est un univers qui m'effraie, mais totalement.
Bon, enfin, ils sont rares à proposer ce type quand même de production, parce qu'on a quand même
surtout du et familier,
du
même
spectaculaire,
temps,
du pseudo-arty, la gamme est assez vaste dans le cirque aujourd'hui. Et ça, c'est une chance de pouvoir voir des choses extrêmement différentes, mais ils sont quand même très particuliers, les Trottola.
Exactement, sans compter, on n'a pas évoqué cette histoire de cloche à la fin, fille.
Ah, oui, oui, surtout que Campana
qui est aussi une trouvaille, donc, ouais. Qui est aussi une trouvaille magnifique.
Mmh. Bon, et justement, on ne le dit pas.
Oui, je pense qu'il vaut mieux pas trop. Bah,
comme ça, j'ai le temps de donner toutes les dates. Hein. D'abord, dire que Campana par le Cirque Trottola, c'est jusqu'au 22 décembre au 104 à Paris. La tournée ensuite au festival Les Élancés, ce sera à Istres au mois de février, au théâtre Molière à 7, la scène nationale de l'archipel de Thau, toujours en février, du 19 au 23 février. Elbeuf, là c'est vraiment le pôle national du cirque, c'est un endroit très important, ce cirque théâtre d'Elbeuf, ce sera au mois de mars, du 9 au 13. Ensuite au festival Villes en Seine, au festival Spring à Fleury, fin mars, et puis au Quinconce, l'Espal, au Mans, du 3 au 10 mai. Et enfin, au Sillon, à Clermont-l'Hérault, les 29, 30 mai, 3 et 4 juin. Et puis, comme je donne des dates, petit retour sur votre coup de cœur, Stück Plastique, parce que j'ai annoncé les dates au Théâtre Studio d'Alfortville, mais en fait, c'est une pièce qui s'est beaucoup promenée en Val-de-Marne, parce que c'est dans le cadre du Festival des Théâtrales, qui propose du théâtre contemporain dans différentes villes de ce département, donc c'est bien de le signaler. Les prochaines dates, hein, je l'ai dit, 13 au 22 décembre, au Théâtre Studio d'Alfortville. Et qui voilà Sarah Dion, ça doit être l'heure du jeu de la dispute. Donc, en effet, Sarah, vous nous rappelez la question du jeu de vendredi soir et nous donnez sa réponse.
La question était: quel collectif a remporté 2 prix lors de l'édition 2017 du festival Impatience? Et la réponse est les Bâtards Dorés.
Ce soir, des invitations à gagner pour le spectacle When I Die de Tom Lose. C'est jeudi 6 décembre à 21h, c'est le festival Mesure pour Mesure au Nouveau Théâtre de Montreuil. Quelle est la question, Sarah?
Quel est le nom de la médium et compositrice qui est l'héroïne de la pièce de Tom Lose, When I Die?
Votre réponse avec vos coordonnées postales envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et vous abonner au podcast également. Demain, 19h, une dispute consacrée à la musique avec autour de nous Sophie Bourdet, Charles Arden, Emmanuel Dupuis. À notre affiche, La Traviata de Verdi, direction Jérémy Rohrer, mise en scène Deborah Warner, c'est au Théâtre des Champs-Élysées. Simon Boccanegra, Verdi encore, direction cette fois Fabio Luizzi, mise en scène Calixto Biglietto, c'est à l'Opéra Bastille. Un disque, les sonates de Scarlatti par Jean Rondeau chez Erato, et puis un coup de cœur d'Emmanuel Dupuis pour une autre production lyrique, Cendrillon de Massenet, c'est à Angers, Nantes, Opéra.